Est-ce que tu penses qu'on la voit aujourd'hui?
Mais il y a du brouillard.
Il y a du brouillard. Ouais.
Bah, on peut se poser
soit ici, soit...
Ouais, on peut se poser par ici.
Chapitre 2. La violence.
Il était, il n'était pas, une histoire terrible, conçue pour effacer les précédentes. L'histoire d'un génocide. Un crime non reconnu par son auteur, que certains ont tenté de faire passer pour une légende. Une histoire sur laquelle les nations se divisent.
Ce sujet, il n'est pas venu tout seul. J'ai une filiation avec ce sujet, voilà. Et c'était ma manière de dire le devoir de mémoire.
Il était une jeune femme qui portait le prénom de la Lune et qui voulait, comme elle, éclairer le passé. La seconde femme de notre histoire, aux cheveux longs et bruns, et au regard brillant de mille récits éparpillés, rassemblés comme les pièces d'une mosaïque.
Je m'appelle Lucinet, donc je travaille sur la post-mémoire d'un génocide, des œuvres qui ont été produites en France au tournant du XXe siècle, par des auteurs français et des auteurs d'autres origines, porteurs de ce génocide. Cette histoire, c'est une mémoire maintenant. C'est une mémoire que je transmettrai absolument. Peut-être cette histoire que je transmettrai à ma fille en lui parlant du génocide un jour. Parce que c'est important de savoir comment les gens ils ont pu survivre dans ces conditions, quelles forces ils ont retrouvées. Je voudrais dédier ma thèse à mon arrière-grand-mère et à tous mes arrière-grands-parents, dont cette arrière-grand-mère, je connais bien l'histoire, comment elle a survécu, son histoire de survie, qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup influencée. Et je me disais à quel point les gens ils peuvent être forts, les gens ils peuvent être conscients et dans des moments charnières. Parce que cette femme dont je parle, elle a survécu, elle était seule avec ses trois enfants, dont les deux jumeaux, nouveau-nés. Et avec une fille de 3 ans, parce que son mari était déjà convoqué à l'armée. La machine de ce génocide marchait comme ça. Donc, on convoquait les hommes et les femmes, elles restaient seules avec les enfants et les vieillards. Donc, elle a survécu, mais malheureusement, elle a dû laisser ses deux enfants au bord de la rivière parce qu'elle ne pouvait pas prendre tous les trois. Donc, elle a pu garder une seule de ses enfants, une fille. Et c'est sa voisine qui n'était pas de même origine qu'elle, qui était de l'origine des bourreaux, une juste qui l'a sauvée en la mettant dans un tapis, en la gardant dans un tapis pendant une semaine. Donc chaque jour, elle la mettait dans un tapis, elle la roulait, elle la posait à la maison comme ça pour que quand les gendarmes ils viennent, ils ne les retrouvent pas avec son enfant. Et chaque soir, elle a délibéré pour qu'elle puisse manger et tout. Donc elle les a aidés à prendre le train pour partir en Russie où ils ont fondé une maison. Elle a fondé une famille, une deuxième famille, elle a eu des enfants et tout, et qui sont revenus dans ce pays d'origine qui était déjà soviétisé. Pour moi, c'était une histoire hallucinante. J'ai du mal à accepter que c'est mon arrière-grand-mère, en fait. Et même les marques physiques qui viennent d'elle, en fait, ça se transmet dans ma famille, par exemple. Aux filles, on ne perce pas les oreilles, parce que à cette femme, on lui avait arraché ses boucles d'or en marchant lors des convois, de leur marche. Et elle n'a pas percé les oreilles de sa fille n'a pas percé les oreilles de sa petite fille. Voilà, et 4 générations des filles de cette famille. Voilà. Oui, c'est une filiation personnelle, et je crois que si je n'avais pas fait cette thèse, je ne pourrais pas me rapprocher tellement à cette histoire.
Il était les survivants de cette histoire, ses orphelins et ses arrière-petits-enfants. Que faire d'une histoire si terrible quand on veut simplement revivre ? Certains dédièrent leur vie à sortir cette histoire de la légende et révéler la vérité. Certains racontèrent à nouveau pour que l'on n'oublie pas ce qui était et ce qui pourrait être encore.
Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas un drame en soi, les drames appartiennent à l'humanité. Ce qui était étonnant pour moi, c'est de voir l'impact de ce drame historique sur les trois générations, bien sûr. Et après, moi, je suis la quatrième déjà à aborder ce sujet de manière académique. Donc, à l'époque de la deuxième génération, il y avait le besoin, après ce génocide, de s'assimiler dans les sociétés, de devenir membre de cette société et d'oublier, de refouler le drame pour pouvoir être, pour pouvoir continuer à vivre, quoi. Donc il fallait, pour ça, il fallait apprendre la langue du pays d'accueil, il fallait s'intégrer dans la société, donc refouler le drame des parents. Et ce n'est pas toujours facile d'assumer que ses parents ont été, par exemple, violés ou ont été bestialisés, si je peux le dire, et ont subi des tortures innommables, quoi. Avec la troisième génération et avec la distance, le laps de temps qui passe, ça devient de plus en plus possible parce qu'il y a des choses qui s'effacent, il y a des choses qui ne vont pas être transmises. Et puis, il y a surtout ce processus de vouloir regagner son identité. Déjà, quand on parle de la deuxième et de la troisième génération, ce n'est plus de la violence physique, mais de la violence psychologique. Et c'est lié aussi par la négation de ce génocide par le pays qui l'a commis. Aussi, il y a l'expression somatique, parce que, par exemple, les enfants, ils peuvent se souvenir d'une grand-mère qui avait l'intention de fuir quelque chose, de mettre plusieurs couches de vêtements pour être tout à fait prête à fuir, de prendre une valise, donc d'avoir peur des bruits. À la fin de la vie, hein, quand il y a la mémoire qui ressort de manière plutôt naturelle ou par intention. Parce que des fois, la troisième génération était déjà consciente que c'est les derniers et ils vont perdre cette mémoire s'ils ne forcent pas leurs grands-parents de se livrer, quoi.
Et qu'est-ce que ça change dans la vie de ces personnes une fois que la mémoire a été transmise, justement ?
On se sent plutôt complet parce qu'il y a plus de lacunes qui nous... Si, il y a toujours des lacunes, mais il y a plus ou moins un puzzle qui est constitué déjà et qu'on se sent complet en maîtrisant toute cette histoire, je crois.
Et est-ce que, comme on parle d'œuvres littéraires, donc d'œuvres d'art, il y a forcément de la beauté. Comment est-ce que toi tu trouves que cette beauté se manifeste et comment ça s'articule avec un sujet aussi horrible qu'un génocide ?
Les horreurs peuvent être esthétisées un petit peu et la violence n'est pas banalisée en tout cas. Il y a bien sûr la question de l'irreprésentable et l'indicible. Mais la littérature arrive à dire de manière détournée, justement via le langage, toute cette violence. Tout ce qu'il y a de beau aussi, c'est le lien qu'on entretient avec les générations précédentes, qu'on ne nie pas, on essaie de s'identifier à cette identité, en fait. Voilà, la beauté, c'est la filiation, je crois. Et le fait d'assumer.
Սուգավարում սինյալ յոտ քաջել, ուրանց խմբաբետ Բուրգեն և Ռուբեն։ Սասունգավարում սինյալ յոտ քաջել, ուրանց խմբաբետ Բուրգեն և Ռուբեն։ Սասունը ելնելով, զենքեր վերցնելով, մինչև ապրիլ լեռներ մանգալով, Սասունը ելնելով, զենքեր վերցնելով, մինչև ապրիլ օրը մանգալով, օրը ինք շաբթի ծրոնք գեխասան, վեդայոց խումբը մարդի մեջ մտան, օրը ինք շաբթի ծրոնք գեխասան, տղայոց խումբը մարդի մեջ մտան, հդգեղի քողֆեն մնելու
ուսուլման. My name is Norik. Je m'appelle Norik. Un jour, je suis parti à l'armée. Notre service militaire dure 2 ans.
Yeah. I go to army.
J'ai commencé en 2019, le 25 juillet.
July 25.
Et je suis revenu en 2021, le 25 juillet.
2021, July 25.
Bav, Uchar Tushnamin, Kedin Pervetsav, Ratsan Batsvetsav, Gurnakin Dibav, Uchar Tushnamin, Kedin Pervetsav.
After 14 months, the war is started.
Au bout de 14 mois, la guerre a commencé.
Last 44 days.
Elle a duré 44 jours.
Il était une violence qui se rejoue. Violence aux mille visages, dont le lanceur originel s'est retiré au premier jet. Il était à nouveau la guerre, quand on la croyait terminée. Quelques soldats de plomb poussés de part et d'autre d'une frontière, le bourdon d'une abeille de métal. Les hôpitaux remplis de souvenirs difficiles, les visages des amis disparus. Un retour différent de ce qu'on attendait, une fin qui n'en est pas une. Il était des vieilles pierres déplacées, des histoires piétinées à nouveau, des douleurs ravivées sur la braise, le deuil encore, des hommes et des temples perdus. Il était un jeune homme qui revenait chez lui, le sourire pâle, après 40 jours de combat.
So when the war started, it's so the first day.
Quand la guerre a commencé, au premier jour, c'était tellement inattendu. Je n'avais jamais été dans une telle situation, où à chaque seconde, quelque chose peut te tomber dessus. Ça tombe du ciel, c'est de l'artillerie. Ça se fracasse et à la moindre seconde, tu penses que quelque chose va te casser, que tu vas mourir. Par chance, je servais dans la défense aérienne et relativement peu de gens sont morts dans ce secteur. Nous étions juste assis à surveiller des cartes. Tous les jours, je me réveillais, j'appelais mon pote et je lui demandais « Mec, est-ce que la guerre est déjà finie ?» Et tous les jours, pendant 44 jours, il me répondait « Non, la guerre n'est pas finie. » Tous les jours, je me levais et j'apprenais qu'une personne avec qui j'avais servi était morte. Tous les jours. La guerre a pris fin le 9 novembre. Il était 1h du matin. Et en une seconde, tout est devenu silencieux. Pendant 44 jours, à chaque fois que tu écoutais, tu entendais des tirs, tout le temps. Tu entendais des bruits d'explosion tout le temps. Et là, en une seconde, tout est devenu calme. En une seconde. On est sorti, mon pote m'a appelé et m'a dit que la guerre était finie. Après ça, nous avons appris que nous devions donner beaucoup de terres à l'ennemi. Ça, c'est le pire, d'avoir donné à nos opposants les endroits où j'ai servi. Je ne peux même plus aller dans ces endroits-là. Le temps s'est arrêté. C'est comme si le temps s'était arrêté pour nous. Même aujourd'hui, quand on se retrouve avec mes amis qui étaient avec moi à la guerre, on en parle et on se sent toujours mal. C'est comme si on n'était pas vraiment vivant pendant cette période. Il y a trop de prisonniers. Il y a beaucoup trop d'amis dont je n'ai plus aucune nouvelle. On ne sait même pas où ils sont.
So we just continue to live, okay?
Donc on continue simplement de vivre. On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. On se souvient aussi de chacun d'entre eux. Et nous voulons recommencer à vivre pour notre nation. Notre nation est bonne, vraiment. C'était des gens qui n'ont jamais rien fait de mal de leur vie. Ils avaient 18 ans, c'était des enfants. Des garçons. Tout ce qu'ils voulaient, c'était revenir chez leur mère. Il y a trop de soldats qui ont eu des problèmes psychologiques après la guerre. C'est pour ça que je suis allé voir une psychologue. Cette femme, je l'aime beaucoup. C'est comme si c'était ma tante. Mon problème principal, c'est mon meilleur ami, que j'ai perdu pendant la guerre. Tous les jours, je pense à lui. Elle m'a dit tellement de choses dont je ne me souviens plus maintenant, et ses mots m'ont calmé. Donc maintenant, je peux vivre et aller au travail, tout simplement.
Maybe there are songs, okay, from war.
Il y a des chansons, beaucoup de chansons sur la guerre.
There are too much songs, and every time we listen.
Et à chaque fois qu'on les écoute, quelque chose se passe dans notre esprit.
It's going on with our minds. So.
C'est pour ça que je ne les écoute que de temps en temps.
Listening them, like 2 weeks, 3 weeks, okay.
Toutes les 2-3 semaines, parce que nous devons le faire. Nous devons nous rappeler ce qui s'est passé.
What is happening? We are trying.
On essaye de poursuivre notre vie, tout simplement.
Just life, okay.
Avant la guerre, j'étais inquiet pour tout, mais plus maintenant. Je ne sais pas si ça vient de l'armée, d'une forme de maturité, si ça vient de la guerre ou d'une lutte, mais je préfère ça. J'aime mieux ça maintenant.